Radio Prague, les informations.
Le Kosovo, au programme de la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'OTAN, relève du personnel de l'hôpital militaire de campagne tchèque à Kaboul. L'entrée de la Tchéquie dans l'espace Schengen compliquera la situation sur le marché de la drogue. À Bruxelles se tient la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'OTAN. Le secrétaire général de l'Alliance, Jaap de Hoop Scheffer, y a déclaré en introduction que l'OTAN était prête à intervenir contre quiconque aurait recours à la force au Kosovo. Le chef de la diplomatie tchèque, Karel Schwarzenberg, pense qu'après la déclaration de l'indépendance du Kosovo, des émeutes auront lieu. D'après lui, la déclaration unilatérale de l'indépendance n'est pas la meilleure solution. Il serait préférable que ce soit le Conseil de sécurité de l'ONU qui décide du statut du Kosovo. L'armée tchèque vient de commencer la relève du personnel de l'hôpital de campagne qui opère dans la capitale de l'Afghanistan, Kaboul. Dans la nuit de jeudi à vendredi, les premiers 41 membres du contingent, qui devrait compter 100 personnes, ont pris l'avion pour Kaboul. Le contingent devrait opérer dans ce pays jusqu'à la mi-avril 2008. L'hôpital de campagne de l'armée tchèque est en service sur la base des forces alliées depuis le début de cette année. Il s'occupe surtout des soldats alliés blessés ou malades. D'après le directeur de la Centrale Nationale contre la Drogue, Jiří Komorous, l'entrée de la Tchéquie dans l'espace Schengen le 21 décembre, comme vient de le confirmer l'Union européenne, apportera des complications sur le marché de la drogue dans le pays. Les services de renseignement indiquent qu'avec la disparition des frontières, on peut s'attendre à ce que certaines filières balkaniques choisissent de passer par la Tchéquie alors qu'elles l'évitaient jusqu'à maintenant. À partir du 1er janvier 2008, il n'y aura plus de police des frontières en Tchéquie, mais la police d'immigration sera conservée. À la place des 195 postes actuels, 43 nouveaux bureaux de l'inspection de la police d'immigration seront créés. Les 7 directions régionales de l'actuelle police des frontières et d'immigration seront conservées, une conséquence de l'entrée de la Tchéquie dans l'espace Schengen. Ce sera la direction élargie de la social-démocratie qui décidera de la candidature officielle de Jiří Švejnár pour la présidentielle de février 2008. Une déclaration du président des sociaux-démocrates, Jiří Paroubek, après une réunion d'une heure avec Švejnár. Ce dernier annoncera sa décision définitive après des rencontres qu'il aura la semaine prochaine avec d'autres partis politiques qui pourraient le soutenir. Mais il a déjà commencé à composer son équipe de collaborateurs. La Chambre des députés vient d'adopter une nouvelle norme sur le transport transfrontalier des déchets. Elle est beaucoup plus rigoureuse que la norme actuelle. Il s'agit surtout de l'enregistrement et des documents de transport qui devront être conservés pendant 3 ans. L'amendement à la loi sur les déchets répond pleinement à la norme européenne et doit encore être adopté par le Sénat et signé par le président de la République avant d'entrer en vigueur. La météo qui nous annonce pas de changement notoire pour les jours à venir. Le ciel restera couvert, les pluies ne sont pas exclues, des chutes de neige en montagne. Les températures resteront élevées pour la saison, de 6 à 9 degrés, mais un refroidissement est attendu pour ce week-end. Bonne fête au Kvetoslava le 8 décembre, d'après le calendrier tchèque. C'était Alain Slivensky avec le bulletin d'information et bonne écoute de la suite du programme en langue française de Radio Prague.
Faits et événements en République tchèque. Anna Kubišta.
Bonjour, vous écoutez bien Radio Prague. Tout de suite, tour d'horizon de l'actualité de la fin de la semaine. On commencera avec un sujet politique. La présidence européenne tripartite France, République tchèque, Suède était au programme d'une conférence et Alexis Rosenzweig était sur place. Le problème des restitutions de propriétés confisquées après la Deuxième Guerre mondiale, encore une fois d'actualité. La Haute Cour de justice de Brno a tranché. Le château de Pochno restera à l'État tchèque. Jirka Gisubelova nous parlera d'un calendrier 2008 un peu spécial, puisque ce ne sont ni des pin-up ni des footballeurs qui ont posé pour les photographes, mais des seniors. En fin de programme, nous évoquerons la personnalité de la bibliothécaire de l'Institut français de Prague sous le communisme, qui vient de recevoir une médaille. Václav Richter vous dira pourquoi. Au nom de toute l'équipe de Radio Prague, où que vous nous écoutiez dans le monde, je vous souhaite une très bonne écoute de nos programmes. La République tchèque doit prendre la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne le 1er janvier 2009, à un moment qui s'annonce crucial dans l'histoire des institutions européennes et juste après la présidence française. Pas simple pour une toute première présidence. Une conférence sur ce thème était récemment organisée par l'Institut des Relations internationales, réunissant intervenants tchèques, français et suédois, la Suède devant prendre le relais au second semestre de l'année 2009. Parmi ses intervenants, Hubert Haenel, UMP, président de la délégation pour l'Union européenne au Sénat français, interrogé par Alexis Rosenzweig.
On l'a vu, le président de la République française est du genre entreprenant.
Oui.
Est-ce qu'il reste une place pour la présidence tchèque après la tornade Sarkozy ?
Je crois que j'ai tout à l'heure essayé de démontrer qu'il n'y a plus de présidence isolée. Maintenant, il y a trois pays qui travaillent ensemble sur un même programme, sur un même projet. Et donc, la présidence française, contrairement à ce que croient certains, c'est pas elle qui va tout régler. Il restera beaucoup de choses à faire ensuite pour la présidence tchèque. On va faire avancer les dossiers, on va en initier certains autres. Tous les problèmes, et de loin, ne seront pas réglés, notamment l'application du traité de Lisbonne. Et donc, les Tchèques, qui pour la première fois présideront l'Union, ont pour nous une importance capitale. Nous attendons beaucoup, les Français et les Européens, de la présidence tchèque.
Ils n'ont pas vraiment de chance, les Tchèques, avec cette question de l'entrée en vigueur ou pas du nouveau traité de Lisbonne. Et puis, avec les élections européennes, est-ce que ça complique vraiment la tâche pour une présidence, une première présidence ?
Ça ne complique pas. Mais les enjeux sont beaucoup plus importants qu'une présidence au fil de l'eau, comme on dirait maintenant. Là, on est sur une période de 18 mois avec des changements importants. Le traité de Lisbonne, c'est vrai, mais aussi réussir Euro-Méditerranée, les liaisons qu'on va avoir avec les pays de la Méditerranée. On aura un nouveau président des États-Unis. Il va falloir savoir comment l'Europe se situe avec les États-Unis. On aura un nouveau Premier ministre en Fédération de Russie qui va s'appeler M. Poutine, qui ne sera plus président de la Fédération. On aura toute une série d'autres événements. Même les Jeux Olympiques de Pékin ont une importance très importante. Quelle attitude l'Union aura à l'égard de la Chine par rapport aux droits de l'homme ? Donc, c'est, moi je pense, pour les Français, pour les Tchèques et pour les Suédois, tout à fait passionnant, même si c'est pas simple.
Dans cette étape de préparation, est-ce que vous sentez chez vos collègues tchèques ou suédois une certaine crainte de se faire un peu effacer par la présidence française qui affiche de grandes ambitions avec ce nouveau président ?
Écoutez, le président, justement Sarkozy, peut-être à la différence de son prédécesseur, a décidé d'avoir une attitude tout à fait différente avec les pays qui nous ont rejoints le 1er mai 2004. Donc il me l'a dit encore une dizaine de jours quand j'avais une réunion de travail dans son bureau. Il l'a dit à ses collaborateurs, il l'a dit au ministre qui était présent, nous devons faire un gros effort en direction de l'Est.
C'était le sénateur français Hubert Haenel. Notez que nous reviendrons sur le thème de la prochaine présidence tchèque de l'Union européenne dans notre émission de mardi. Le château d'Opocno, situé dans la région de Hradec Králové en Bohême, restera propriété de l'État. Ainsi en a décidé la Haute Cour de justice de Brno, rejetant ainsi l'appel de Christina Colloredo Mansfeld, dont les ancêtres ont été propriétaires de ce château Renaissance pendant 3 siècles. Confisqué après la Seconde Guerre mondiale en vertu des fameux décrets Beneš, l'héritière de la célèbre famille italienne installée en pays tchèque au XVIe siècle cherche à récupérer le bâtiment Renaissance depuis le début des années 90. Or, le conflit au cours du château d'Opocno est complexe. En 1942, les nazis confisquent la demeure à la famille Colloredo Mansfeld en raison de ses positions peu favorables au Troisième Reich. Mais l'Institut des Monuments Nationaux, parti adverse de la famille Colloredo Mansfeld, explique aujourd'hui que le père de Christina Colloredo Mansfeld est soupçonné de s'être déclaré de nationalité allemande en 1940. Les preuves écrites ont toutefois disparu. En 1945, l'État tchécoslovaque confisquera la propriété pour collaboration avec les nazis. La justice a cependant déjà donné raison une fois à Christina Colloredo Mansfeld. En 2003, elle parvient à récupérer la propriété familiale avant que la Cour constitutionnelle tchèque n'annule toutes les décisions précédentes, considérant que la confiscation d'Opocno par les nazis ne pouvait être considérée comme de la persécution raciale. La Haute Cour de justice de Brno a donc rejeté l'appel de l'héritière contre le dernier verdict rendu par le tribunal régional de Hradec Králové. Aujourd'hui, Christina Colloredo Mansfeld envisage donc de porter l'affaire devant la Cour européenne de Strasbourg. Eva Lanska, directrice du bureau territorial de Pardubice, de l'Institut des Monuments Nationaux, qui s'occupe de la gestion du château, se dit, elle, satisfaite du verdict rendu en novembre par la Haute Cour de Brno, mais rendu public seulement ce jeudi. Elle espère qu'il en sera de même dans le cas d'un procès à Strasbourg, car les descendants sont également en procès à propos du mobilier du château, un mobilier dont la valeur s'élèverait à 1 million de couronnes, 38 000 euros environ. On écoute Eva Lanska.
zatím byl vydán částečný rozsudek na část mobiliáře.
Un verdict partiel avait été rendu une première fois pour une partie du mobilier. Nous avons fait appel de ce verdict et la cour d'appel a rejeté la plainte des Colloredo. Le mobilier est donc resté propriété de l'État. Nous supposons que la partie adverse va continuer à se battre, mais je veux croire que, tout comme les tribunaux ont dû se plier à la décision de la haute cour de justice dans le cas du bâtiment, il en sera de même dans le cas du mobilier.
Le château de Pochno n'est de loin pas le seul cas où une famille de la noblesse dont la propriété a été confisquée après-guerre cherche à récupérer des propriétés confisquées après 1945. Deux photographes tchèques, Jan Saudek et Roman Sluka, et des étudiants d'école de photographie de Prague et Brno ont répondu à l'appel de la fondation Senior Joyeux pour créer une collection de photographies qui a fait le tour du pays avant que les meilleurs clichés aient été sélectionnés pour un calendrier 2008. Jarka Gisubelova a assisté à sa présentation au Café Louvre à Prague.
L'originalité du calendrier tient dans le fait que les stars sous le feu des projecteurs sont des seniors. Le calendrier naît en réaction aux priorités actuelles de notre société qui incline unilatéralement vers le culte de la jeunesse, la beauté et la réussite. La perfection physique est au sommet de la hiérarchie des valeurs, alors que la vieillesse, la sagesse, l'expérience n'y ont presque pas de place. On écrit dans l'introduction du calendrier les fondatrices de la fondation en nom un peu provocateur, Seigneur Joyeux. Elle a vu le jour en août 2006 pour aider les seniors, car cette place reste vacante sur le marché des activités caritatives, dit l'une des fondatrices Eliška Klepalová.
Les recettes de toutes nos actions sont destinées aux seniors. Nous contribuons à l'achat d'appareils de réhabilitation et d'équipements médicaux, mais nous aidons aussi les seniors qui vivent chez eux et qui souffrent de solitude. Tous les jeudis, nous les invitons au cinéma ou au théâtre et nous nous sommes lancés dans une activité très prometteuse. Nous essayons de contacter et relier deux générations, celle des personnes âgées et celle des enfants dans les foyers de l'enfance. Le temps passé avec eux est ce qui manque le plus à ces enfants, et le temps est, justement, ce qui ne manque pas aux seniors.
Les photos du calendrier Seigneur Joyeux ont été sélectionnées par le plus célèbre des photographes tchèques, Jan Saudek, malheureusement absent à la présentation, et qui est aussi l'auteur de deux d'entre elles, l'une de sa mère qui tient dans sa main encore une autre petite photo de sa jeunesse, et l'autre de son père portant une étoile de David qui rappelle le destin tragique de sa famille pendant la guerre. Tous les visages dans le calendrier sont habités par des âmes émanant le charisme et la sagesse. Un modèle, Gustav Singer, médecin et ancien légionnaire sur le front russe, s'est confié.
C'était une surprise pour moi qu'ils aient voulu me photographier. Au début, je ne savais pas que c'était pour un calendrier. Excusez-moi, je suis un peu ému.
La plupart des photographies pour le calendrier ainsi que pour l'exposition ont été créées par les jeunes étudiants d'école de photographie, montrant la vieillesse non pas comme une exclusion, mais comme une partie naturelle de la vie.
Mercredi, le conseiller culturel de l'ambassade de France à Prague, Jean-Marc Berton, a remis une médaille d'honneur à Jarmila Najbertova-Lorensova, ancienne employée de la Bibliothèque française de Prague. La France a ainsi remercié cette femme pour qui son travail de bibliothécaire était aussi un moyen de lutte pour la liberté d'expression. Václav Richter.
La remise de la médaille a eu lieu dans l'intimité de l'appartement de Jarmila Najbertova, dont l'âge ne lui avait pas permis de se rendre à une cérémonie officielle à l'Institut français de Prague. Le conseiller culturel Jean-Marc Berton explique les raisons pour lesquelles la France a distingué cette femme courageuse.
Le ministre des Affaires étrangères européennes français, M. Kouchner, a souhaité remettre cette médaille d'argent du ministère des Affaires étrangères à Mme Najbertova-Lorensova pour deux raisons. La première, c'est qu'elle a contribué au maintien, au développement des relations culturelles entre la France et la République tchèque, à un moment extrêmement difficile pour ces relations. Et puis la deuxième raison, c'est qu'elle a contribué là où elle était, dans ses fonctions, à la bibliothèque française, à Štěpánska, à Prague, entre 1967 et 1975 au développement de la liberté d'expression. Ce sont les raisons qui nous ont décidé à lui remettre cette médaille et nous sommes tous très émus aujourd'hui d'être là avec elle et puis d'évoquer le souvenir de cette époque difficile.
En recevant la médaille, Jelmira Naibertova n'a pas caché son émotion tout en gardant son sens de l'humour.
Je suis très émue et très honorée et je remercie la France pour toute la beauté qu'elle m'a donnée, la littérature, la culture et la langue, que je parle si difficilement.
C'est Roselyne Chenu, ancienne secrétaire générale de la Fondation pour une entraide intellectuelle européenne, qui a attiré l'attention des milliers officiels français sur le travail et le courage de Jelmira Naibertova.
Jelmira Naibertova avait commencé à travailler à la bibliothèque française et avait préparé avec des collègues la réouverture de la bibliothèque en avril 67, si ma mémoire est bonne, la bibliothèque ayant été fermée sur ordre des autorités tchèques en 1951. Je me suis rendu compte progressivement combien sa vie devenait de plus en plus difficile, interrogatoire de la police, etc. Et le courage extraordinaire qu'elle a eu ici à la bibliothèque française où tant la direction tchèque que certains directeurs français étaient, pour parler très simplement, étaient trouillards, prenaient des mesures de censure idiotes. Et Jelmira a eu le courage de sortir certains livres, certains documents des journaux qui étaient mis sous clé et de les faire lire à des lecteurs en qui elle avait confiance, bien entendu. Mais c'était pour elle une volonté de continuer à faire circuler et la lecture, et la littérature, et l'information. En tant que Française, j'étais honteuse que mon pays ne l'ait jamais remerciée officiellement. Je trouvais que ce n'était pas bien, du tout. Il y avait une sorte d'ingratitude ou de l'indifférence de la part de la France. Et c'est pour cela que, depuis le mois de mai dernier, avec l'aide de quelques amis qui ont fait des attestations en sa faveur, que donc nous avons introduit une demande de reconnaissance officielle, qu'elle mérite amplement et qu'elle mérite même certainement davantage que d'autres personnes qui ont eu des décorations ou des médailles. Jelmira le méritait vraiment. Et le mérite vraiment parce qu'elle a rendu d'immenses services à la liberté de l'esprit et à la littérature et la culture française.
Fin des faits et événements en République tchèque. Restez à l'écoute. Tout de suite, on retrouve la rubrique économique de la semaine.
Économie, commerce.
Ivona Kreutzmanova, fondatrice du Festival international de danse Tanec Praha, est actuellement conseillère du ministre de la Culture de la République tchèque, Václav Jehlička. Nous avons évoqué avec elle les principales tendances du renouvellement en gestation de la politique culturelle tchèque. Un groupe de travail créé par le ministre de la Culture, en coopération avec l'Université Charles de Prague, tente de définir les principes d'une nouvelle politique culturelle tchèque. Il s'agit en premier lieu de faire évoluer l'image du rôle de la culture dans une société moderne.
On a le désir à laisser les politiciens à tous les niveaux et le public le plus large comprendre que la culture, ce n'est pas le secteur troisième, disons, qui mange d'argent, mais c'est le secteur qui est vraiment économique, c'est-à-dire qui a les effets économiques très très importants. Ce n'est pas seulement l'industrie musicale, l'industrie culturelle, mais c'est aussi, disons, le développement de l'emploi, le développement de tourisme, le développement des conditions du travail, d'attractivité d'environnement où on vit, où on travaille. Ce sont des effets qui étaient maintenant déclarés par l'Union européenne au niveau très fort. On a déjà la base bien posée par l'Union européenne pour changer un petit peu le point de vue sur la culture comme le secteur beaucoup plus économique qu'avant. Et c'est quelque chose d'important. Et je pense que ce ministre, il est vraiment très proche de ce point de vue de montrer que la culture, c'est le facteur de développement de la société au niveau économique, socio-économique et tous les autres aspects. Et en même temps, Il veut bien sûr protéger le patrimoine, il veut le garder, c'est sûr, mais aussi animer, c'est-à-dire donner la nouvelle fonction à tous les monuments historiques, le patrimoine qui est très riche dans notre pays, mais avec en liaison avec les arts vivants, en liaison avec la tradition très forte culturelle de notre pays.
Le ministère doit faire face à un problème de taille. La décentralisation des pouvoirs limite sa capacité d'influencer la politique culturelle sur tout le territoire.
Au début de ce siècle, au millénium, la grande réforme était créée par l'État et ça a donné une autonomie absolue, on peut dire, aux régions et aux villes. Et c'est vrai que cette autonomie représente maintenant aussi les limites de coopération, parce que chacune région peut décider est-ce qu'ils veulent ou pas créer leur politique culturelle, est-ce qu'ils veulent avoir vraiment le système de subvention de région pour la culture ou non. En même temps, il y a la loi qui explique que c'est important de soutenir la culture dans tous les niveaux, c'est-à-dire de pouvoir public. Et j'espère que la nouvelle politique culturelle qui est en train de se construire maintenant au niveau du ministère de la Culture va déjà créer les liaisons beaucoup plus fortes, disons, au système de partenariat. C'est pas la question que le ministère dirige la politique culturelle de tout l'État. Mais en même temps, ils peuvent aider au niveau méthodique, au niveau des motivations financières, etc., aux régions et aux villes à développer leur propre politique culturelle pour la région, pour la ville.
La conseillère du ministre de la Culture évoque deux points qui lui semblent prioritaires dans l'évolution de la politique culturelle tchèque. Elle aimerait en premier lieu que la notion de diversité culturelle soit prise en compte par la politique.
Pour moi, car je connais les règles de l'UNESCO aussi, toutes les conventions qui à ce moment sont discutées au Parlement, au Sénat, sans grand succès, je pense que l'aspect de diversité culturelle, de multiculturalité, d'ouverture de la culture vraiment aux minorités, c'est quelque chose de très important partout en Europe. Et ici, on en parle, mais on n'a pas trop d'implications, on n'a pas trop des exemples pratiques.
La deuxième priorité évoquée par Ivona Kreutzmanova porte sur la nécessaire évolution de la répartition des financements. Ceux-ci sont en effet actuellement marqués par un déséquilibre flagrant entre les organismes publics et le secteur indépendant.
Les organisations créées par l'État ou les régions ou les villes, ce sont les organisations qui sont à ce moment subventionnées à 95% des budgets. Disons 3 à 5% restent pour NGOs. Bon, ça s'appelle příspěvkové organizace. C'est difficile à traduire, hein, parce que ce sont les organisations qui ont clairement dans le budget de la ville ou la région ou l'État d'argent absolument sûr. À côté de ça, ce ne sont que les petits systèmes des financements, des grant systems.
Ce déséquilibre dans la répartition des financements pose un problème important de discrimination du secteur indépendant, difficilement capable de concurrencer les organismes aux revenus sûrs.
Et si la compétition n'existe pas, même si ce sont les services au but non lucratif, là, il y a quelque chose de très bizarre. Oui. Mais ça reste dans le système un peu ex-communiste, chacun qui est dirigé par le pouvoir public n'a aucune motivation à développer fundraising, les autres sources de financement, effectivité de management, etc. Je ne dis pas que tout le monde est mauvais, pas du tout, mais je dis qu'il n'y a pas la motivation de le changer vraiment. Ça, c'est le problème le plus grave, de mon avis, parce que ça ne laisse pas l'espace au développement naturel des organisations indépendantes. Ouais.
Comment réaliser ces changements? Comment faire évoluer le système vers une politique culturelle qui favorise le secteur indépendant, sans pour autant détruire les organismes publics incapables de changer radicalement, du jour au lendemain, leur gestion? La conseillère du ministre de la Culture propose une réponse simple, l'augmentation du budget de la culture.
On parle d'une chose qui est plutôt indicative, que le standard à l'Union européenne pour la participation du budget d'État à la culture fait 1%. Chez nous, on est à moitié de ça. Et c'est vraiment très, très gênant. C'est très difficile. On ne peut pas créer des choses, on ne peut pas développer les programmes dans les secteurs différents de la culture parce qu'on n'a pas d'argent. Et sans sous, on ne peut rien faire. Et c'est vrai qu'à ce moment, le ministre se bat beaucoup pour son budget. La proclamation du gouvernement était « il faut créer les conditions pour arriver à 1% pour la culture ». Alors, les objectifs du gouvernement sont absolument différents que la réalité. C'est la discussion éternelle, je pense, qui va encore continuer longtemps, mais on se bat, en tout cas. Oui.
Il nous reste à remercier Ivona Kreutzmanova, conseillère du ministre de la Culture, pour ses éclairages concernant la politique culturelle tchèque, sujet dont nous serons sûrement amenés à reparler sur Radio Prague. C'était Nathalie Franck, fin de la rubrique économie. Bon week-end.
Les programmes de Radio Prague en langue française se terminent, mais l'info sur la République tchèque continue sur notre site internet www.radio.cz. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine. Ahoy.
Dali západ zhasína, září poslední. Marně hledám nocí tmou, cikánku nevěrnou. Zdá se mi, že nebude již nikdy mou. Cikánko ty krásná, cikánko malá.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9750 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz. And at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 hours on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9890 kHz. In the Middle East, listen at 1130 hours UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9890 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours UTC on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC on 1358.